Aujourd'hui, en ce 30 mai, c'est bien difficile de ne pas parler de Sainte Jeanne d'Arc. Une jeune fille morte à 19 ans. Toute jeune, 19 ans, elle a été brûlée vive. Et souvent, on attaque l'Église pour ça, mais ce n'est pas l'Église qui l'a fait brûler. Vous verrez, je vous raconterai ça en détail. Et c'est beaucoup plus les Anglais. Et l'Université de Paris, sous l'influence des Anglais, qui ont tué cette pauvre fille. Et quelques années plus tard, d'ailleurs, l'Église catholique l'a réhabilitée, à peine, quoi, 20 ans, 25 ans plus tard. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est la fête aussi aujourd'hui, je le mentionne en passant. Ceux qui aiment que l'on pense à certaines personnes, qu'ils connaissent, qui ont ces prénoms-là, c'est un martyr en Angleterre, malheureusement dans les guerres qui opposait la couronne d'Angleterre qui avait séparé l'Église catholique en anglicanisme et catholicisme. Et alors, William Scott a été martyrisé en 1612 dans cette terrible situation. Et il y a aussi la fête de Saint Isaac, le Syrien, un moine syrien mort en 406. Et il y a un Saint-Hubert aujourd'hui qui était évêque de Tongres, Maestricht, Liège, mort en 727. Et enfin, un Saint-Ferdinand, Ferdinand III, roi de Castille et de Léon, donc en Espagne, mort en 1252. Et finalement, Saint-Félix Ier, un des premiers papes, mort en 274. Donc je passe à Sainte-Jeanne d'Arc, cette sainte absolument discutée et qui n'est pas discutable à mon avis. Il suffit de lire. De lire ces magnifiques livres qui ont été publiés, en particulier par Régine Pernoud, mais aussi par quantité d'autres auteurs. Et j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps quelque chose que j'ai lu avec beaucoup de ravissement, avec une préface du révérend père Michel Riquet, qui avait prêché à Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas, le procès de condamnation de Jeanne d'Arc, traduit, présenté et annoté par Raymond Oursel. Magnifique édition en caractère gothique, noir et rouge, avec de belles illustrations, des bois gravés très anciens, une reliée en cuir brun. C'est un ouvrage précieux qui m'est très cher, parce qu'on y lit justement toutes les magnifiques réponses que cette sainte a apportées lors de son procès et qui sont authentiques, colligées sous la direction de cet évêque qui a présidé à ce procès, l'évêque Cochon, dont on garde un bien mauvais souvenir, n'est-ce pas? La vie de Sainte-Jeanne d'Arc est une vie très courte, je vous ai dit, elle est morte à 19 ans. C'est une jeune fille, donc, et toutes les jeunes filles devraient connaître la vie de Jeanne d'Arc. C'est une vie magnifique, hein? Et c'est une vie véridique, véritable. Les événements se précipitent au cours de sa vie, entre son départ, n'est-ce pas, de Vaucouleurs pour la guerre, puis le bûcher, où elle est brûlée, à Rouen, en Normandie. C'est quelques mois, finalement. Et ce sont comme des images, d'ailleurs, on les voit dans les films sur Sainte-Jeanne d'Arc, de très beaux films, la Jeanne d'Arc de Dreyer, superbe. Alors, les images se succèdent, ça ne laisse pas de place au silence, finalement, quoi qu'elle soit une fille de prière. Et souvent, on rapporte qu'elle est agenouillée, qu'elle prie la moitié d'un quart d'heure ou un peu plus, et parfois même la nuit. Et combien ces silences contiendraient d'enseignements si ce silence était livré à notre méditation? C'est pas facile d'immobiliser la souhaite d'une fille aussi courageuse et aussi dynamique, hein, dans des attitudes bien significatives, puis plus. Essayer de s'y arrêter, c'est pas facile. Mais ce serait le moyen de laisser cette jeune femme, cette jeune vierge guerrière, hein, expliquer ce qu'elle fut. Et si elle fut vraiment de bonne foi. Or, on est tenté de l'avilir, hein, de dire ça n'a pas de sens, ces histoires. Pourtant, il n'y a, à mon avis, quand on étudie, moi aussi j'ai eu beaucoup de doutes sur Jeanne d'Arc, et à mon avis, quand on étudie à fond, en particulier avec des livres comme celui que je vous recommanderais beaucoup, publié aux éditions du Seuil un gros bouquin, Régine Pernoud, Jeanne d'Arc, intitulé simplement Jeanne d'Arc, avec des illustrations magnifiques. C'est publié sur du papier glacé. Alors on voit des photos même de Ludmila Pitoëf, que j'ai connue à Montréal au début des années 40, et qui a joué dans la Sainte-Jeanne de Bernard Shaw. Et il y a toutes sortes de photos superbes, des tableaux de Rubens, d'illustrations, mais surtout une étude et une analyse très solide de Jeanne et de la légende, mais aussi de la vraie Jeanne. Et cette vraie Jeanne est une Jeanne étonnante. Et c'est à lire un livre comme ça, de même que par Georges et André Duby, Le procès de Jeanne d'Arc. Vous savez, le fameux Georges Duby, ce sont des gens que j'avais interviewés, ça, à rencontre, grâce à cet intervieweur que j'avais, Marcel Brisebois, qui faisait de si bonnes entrevues. Alors nous avions eu Georges Duby, puis Régine Pernoud et quantité d'autres. Et ce sont donc des livres, un autre de Régine Pernoud, qui est en livre de poche, Vie et mort de Jeanne d'Arc. Il y a tellement d'ouvrages, sans compter dans Historia, tous les articles de Régine Pernoud qui sont fascinants. Mais il y a des centaines d'autres ouvrages que je pourrais vous signaler. Je vous signale les quelques-uns que j'ai comme ça dans ma bibliothèque. Et alors donc, à Rouen, les juges, quand on l'a jugée pour la supprimer, ce sont des juges qui sont sous la juridiction, au fond, des Anglais, qui occupaient la France à l'époque et qui s'acharnent à prétendre qu'elle est de Satan. Mais plus tard, d'autres juges, un à peine plus éclairés que les premiers, aimeront à la peindre sous les traits, malheureusement, d'une névrosée. Et elle appartiendrait, disent ces pseudo-juges modernes, à la psychopathologie plus qu'à l'histoire. Les mieux intentionnés ont cru voir en elle, heureusement, la sainte inspirée. Mais ils ont oublié parfois la femme. Parce que c'est une destinée de femme que la destinée de Jeanne d'Arc. Et c'est une destinée profondément cohérente. Et on n'a pas le droit de dire n'importe quoi sur cette femme. C'est une fille modeste d'abord. C'est une fille simple, qui ne sait ni lire ni écrire. Et sans doute que souvent ses jugements à l'égard de différentes choses et différentes personnes sont rudes. Mais ils sont sûrs en politique et au combat. Et cette transformation d'une fillette de 16 ans en une femme de 17 ans et en une adulte de 18 ans et 19 ans est absolument phénoménale. C'est une fille qui est soumise à Dieu, dans la victoire comme dans le sacrifice, et tout cela est bon. Mais ça ne nous satisfait pas. Car, depuis le moment de son enfance, où elle jouait dans le jardin de son père, et où un jour d'été, en 1425, vers l'heure de midi, elle entend des voix pour la première fois, jusque à cet abominable frisson terrible qui l'a enveloppé sur le bûcher, le 30 mai 1431, lorsqu'elle crie « Jésus », il y a 565 ans aujourd'hui même, elle crie « Jésus » au moment même de mourir. Jeanne avance avec peine dans toute cette vie-là, avec difficulté, sans autre secours que sa confiance en Dieu. Et c'est cette marche audacieuse-là vers l'inconnu de sa destinée. Elle recule à un moment donné devant le bûcher. Ça lui fait vraiment peur. Hein? Elle n'avait pas prévu de mourir ainsi. Alors seulement, on aurait trouvé autre chose qu'un défilé d'images superbes, mais c'est parce qu'il y a cette chute hein, qui nous montre qu'elle est vraiment une femme, un être humain. C'est comme si c'était une émotion presque miraculeuse dans un sens, qui anime cette vie exceptionnelle et qui nous la rend encore plus proche de nous qui sommes des pécheurs. Il est assez naturel d'ailleurs de s'attacher à trois aspects principaux de la destinée de Jeanne, nous dit dans un très beau texte sur Jeanne d'Arc, Marcel Clément. Cette aventure se développe en trois images qui ont été pour Jeanne d'Arc comme les trois étapes successives de son ascension. On pourrait comparer ça à trois étages. Il y a la bergère de Don Rémy, sa jeunesse, qui apparaît comme une préparation, comme un apprentissage, hein, comme une longue retraite. Alors, il y a là, dit-elle, des voix. qui lui enseigne quoi faire. Ensuite, la deuxième, c'est qu'elle est écoutée, elle est victorieuse à Orléans et à Reims, en Champagne. Et c'est une réussite guerrière, temporelle, qui aboutit au sacre du roi, qui est le petit-fils de Saint-Louis. Et la troisième étape, qui est terrible, c'est qu'elle est prisonnière des Anglais à Compiègne, puis elle est brûlée à Rouen. Et Jeanne, par son sacrifice, se trouve à transfigurer son œuvre. Elle l'affermit là, d'une certitude divine, car il faut lire le procès et voir comment elle meurt. Elle scelle toute cette courte vie d'une façon si héroïque qu'elle est une des grandes saintes de l'histoire de l'Église. Mais c'est une sainte guerrière, et nous sommes pris devant le problème de la guerre. En somme, chacun des trois panneaux que je viens de vous dire, qui forment une espèce de triptyque, ça semble développer un thème qui s'achève à chaque fois que lorsqu'il a trouvé sa forme parfaite. Ces trois beaux étages, si on peut dire, trois belles étapes. Et trois fois, Jeanne a dû s'adapter. Et trois fois, elle s'est lancée de toute son âme vers la tâche qui s'offrait à elle. Et trois fois, elle l'a portée à son point de perfection. Et c'est là qu'il faut rechercher les preuves de sa mission, car on a des preuves. On peut décrire un caractère. Bon, c'est sans doute moins difficile que de rechercher une âme. Parfois, il arrive qu'on puisse s'en contenter, mais ce serait se condamner, à mon sens, à connaître bien mal Jeanne d'Arc, que de se borner à énumérer ses qualités et ses habitudes. Bon. On pourrait se contenter de savoir que la petite Jeanne, de Don Rémy, était une fille obéissante, recueillie, appliquée. Bon. On pourrait simplement la montrer assidue à ses travaux domestiques là dans la maison, sous un plafond bas de sa maison natale. Vous savez qu'elle existe toujours. Et on retrouve dès son enfance les marques d'une piété ardente. Bon, ses petits amis se moquaient d'elle un peu. Elle n'est pas qu'elle était pieusarde. Elle était pieuse et intelligente en même temps. Ses réparties, qui ont été rapportées par des témoins, sont vraiment étonnantes. Mais ces descriptions-là, ce serait assez prématuré si elles ne sont pas faites à la lumière de cette espèce de foyer, de foi, un foyer de vie, qui est l'âme de Jeanne d'Arc. Elle est parfaitement inexprimable, cette âme, mais qui ne doit pas être oubliée. C'est une âme d'élite qu'est l'âme de Jeanne d'Arc, une âme exceptionnelle, rare. Parce que derrière tous les gestes de Jeanne d'Arc, c'est la flamme. Une flamme secrète, qui est toujours présente et qui anime, qui soutient et qui triomphe, quand elle a 17, 18 et 19 ans. C'est elle seule qui permet de donner un sens aux étranges contradictions que l'on peut voir. C'est cette petite Jeannette, comme on l'appelait, Jeannette de Don Rémy, c'était son surnom. Parce qu'elle demeure mystérieuse, et c'est difficile à saisir, parce que cette Jeannette, elle est bien jeune. Il est difficile de retrouver, même en imagination, l'espèce de grâce intérieure de l'enfance pour laquelle tout est simple, tout est certain chez elle. Elle n'hésite pas. Elle a une foi pure. Et il y a cette éducation qu'elle a reçue, qui est simple aussi, et qui lui permet d'évoluer simplement. Jeanette, à l'heure où les premiers mouvements de la raison ne font que s'ébaucher en elle, elle témoigne, au contraire, elle, d'une maturité qui est absolument incompréhensible. Mais c'est absolument incompréhensible. Elle a des dialogues avec les jeunes de son âge et qui ont été rapportés par des témoins sérieux. C'est phénoménal. Il y a moins de 13 ans, elle donne le spectacle d'ailleurs d'une maîtrise de soi. Une maîtrise de soi qui s'exprime dans toutes ses attitudes et elle apporte une conscience vraiment merveilleuse dans les travaux qu'on lui confie. Elle manifeste une application de tous les instants. Puis le témoignage de ses compagnes d'enfance, qui rapporte clairement que dès son plus jeune âge, elle montre une foi aussi réfléchie que passionnée. C'est même ça lui attire des moqueries, comme je vous ai dit, hein, au témoignage d'Oviatt. Oviatt, on en parle souvent dans le procès qui a eu lieu quelques années après sa mort. Eh bien, Oviatt, sa compagne plus jeune qu'elle, de 3 ou 4 ans, elle dit que Jeannette était trop dévote et souvent dans les chants, quand elle entend les cloches, elle s'agenouille. Rien de bien grave là-dedans. Hein. Et elle ajoute que Perrin, le drapier, qui sonne les cloches et fait le marguillier, la regarde entrer avec sa sœur et d'autres, car Jeannette lui a promis de la laine pour qu'il mette plus de diligence à sonner les messes et les complis. Elle est donc généreuse. Elle entoure les gens de petits cadeaux, de dons. C'est une fillette de 13 ans. Et souvent, les enfants de 13 ans ne sont pas si prêts à faire des cadeaux. Ils sont très possessifs, les enfants de 12-13 ans. Il semble que Jeannette, à la lumière de sa foi, qui était très vive, je dirais même une vie, une foi presque farouche dans un sens, elle a mis de l'ordre dans sa vie. À l'âge où les enfants s'appliquent seulement à mettre du désordre dans celle des autres, dirait-on. Est-ce qu'elle est à l'abri des tentations? Non, sans doute. Mais elle a une grâce qui lui permet de fortifier, dès ce moment, une énergie et une volonté sans défaillance. Elle élimine, comme ça, de son esprit, tout ce qui peut la détourner de ce qu'elle veut vraiment entreprendre. Elle ne forme que des projets que sa conscience approuve, puis elle est parvenue à cette maîtrise de sa pensée et de son corps, si simple à énoncer, et si longue à acquérir, là, qui lui permet de faire ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut et non ce qu'elle désire. C'est très différent. Hein? Faire ce que nous voulons plutôt que ce que nous désirons. Elle ne fait pas ce qui la tente. Elle ne fait pas ce qui lui sourit. Elle est déjà toute sagesse. Elle fait ce qu'elle veut vraiment, en union avec Dieu, et elle est libre. C'est ça la liberté, puis elle est vraiment libre. Elle est aussi profondément féminine. C'est pas un garçon manqué. Elle s'affirme. C'est une fille de paysan. Hein? Elle ne sait ni A ni B. Elle le dit d'ailleurs à ceux qui l'interrogent à Poitiers, qu'elle ne connaît pas grand-chose. Et pourtant, son jugement l'emporte sur celui des hommes les plus sages du royaume. Elle ne sait ni lire ni écrire, je vous l'ai dit, mais lorsqu'elle dictera des lettres, elle le fera dans une langue magnifique, savoureuse et précise. On les a d'ailleurs, ça a été conservé. Il y a une droiture du jugement qui le dispute d'ailleurs à une grande maîtrise de l'expression. Elle s'exprime très intelligemment. Elle ne connaît que ses prières. Mais à Rouen, elle va éviter, avec une bonne ironie, les pièges de ses juges. Hein? Et tout cela est complètement incohérent. Si l'on refuse à Jeanne cette élection divine, ce choix que Dieu a fait d'elle, et dont elle s'est déclarée l'objet, les leçons du catéchisme, les conversations saintes de la table de famille, c'est toute la culture de son esprit, c'est tout. C'est indiscutablement, pourtant, l'un des plus solides et des plus brillants esprits de son temps. Il y en a qui ont essayé d'expliquer l'intelligence merveilleuse de Jeanne en invoquant le bon sens qui appartient en propre aux bons paysans, mais ce sont là des jeux de mots. Voyons donc. Le fond d'équilibre et de bon sens qui appartient à Jeanne d'Arc, que ce soit là d'origine paysanne, dans un sens d'accord, mais il reste à expliquer l'extraordinaire développement de son esprit et la perfection de ses jugements. Elle a un talent qu'elle déploie lors de son procès qui est phénoménal. Il faut lire ça. C'est une des plus belles choses à lire dans quelque bibliothèque que ce soit. On aime ça, les procès. On en fait des procès à la télévision, puis on fait toutes sortes de procès, souvent bien moches, à mon avis. Mais si on faisait le procès de Jeanne d'Arc, intelligemment, que ce serait beau! Pourquoi ne fait-on pas de belles émissions comme ça? Les grands procès, n'est-ce pas? Mais toutes ces choses s'obtiennent dans le cœur de Jeanne d'Arc, au terme d'une longue discipline de l'esprit. Jeanne d'Arc, elle ne sait ni A ni B, mais elle est merveilleuse. C'est donc parfaitement impossible de concilier toutes ces contradictions. Ça ne s'éclaire qu'à partir du moment où Jeanne elle-même en donne la clé, et elle le dit, elle est envoyée de par Dieu, le roi du ciel. Elle dit, quand j'eus l'âge de 13 ans, j'eus une voix de Dieu pour m'aider à me gouverner. Et la troisième fois, j'eus très peur. Et vint cette voix, environ l'heure de midi. autant de l'été dans le jardin de mon père. Je n'avais pas jeûné la veille. C'est très important, je n'avais pas jeûné la veille. Donc, c'était pas une fille qui avait faim, qui était malade et qui s'est imaginé des affaires. Non, elle avait mangé normalement. Et elle ajoute, j'entendais la voix du côté droit vers l'église et rarement je l'entendis sans clarté. Il me semblait que c'était une digne voix et je crois que cette voix était envoyée de par Dieu. Lorsque j'eus entendu par trois fois cette voix, je connus que c'était la voix d'un ange. Cette voix m'enseigna à me bien conduire et à fréquenter l'église. À fréquenter l'église. Il n'y a pas dit de rester chez elle parce que le prêtre était ennuyant. L'ange lui dit de bien se conduire, de fréquenter l'église. Elle ajoute, elle m'a dit, la voix, qu'il était nécessaire que je vienne en France parce que la France, c'était pas la France aujourd'hui. Il y avait aussi la Bourgogne qui était séparée, etc. Et la Bourgogne, d'ailleurs, était rangée du côté des Anglais qui occupaient une grande partie de la France. Oui, c'était... Il y avait le roi de Lancastre, roi d'Angleterre, qui se considérait comme roi de France. Et les Français n'avaient pas de roi. Le petit-fils du roi Saint-Louis n'était pas couronné. Il n'était que dauphin, c'est-à-dire... candidat à la couronne. Et alors donc, elle ajoute, Jeanne d'Arc, et je ne pouvais plus durer où j'étais, et la voix me dit que moi, Jeanne, j'irai vers Robert de Baudricourt dans la ville de Vaucouleurs dont il était capitaine et qu'il me baillerait des gens pour aller avec moi. Me fournirait des gens pour aller avec moi. Et le mal que l'on s'est donné pour expliquer que ces voix n'étaient pas des voix dispense de rouvrir ici un débat où seule la passion se donne cours. Il semble seulement que le reproche d'invraisemblance que l'on adresse à une Jeanne, puis je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, obéissant à des voix, s'applique aussi gravement à l'hypothèse d'une Jeanne n'obéissant à rien, comme si Jeanne n'avait obéi à rien, comme si à 16 ans elle n'avait rien entendu, elle imaginait des choses, et elle aurait eu tout ce courage, cette lucidité, cette ferveur, puis elle serait morte comme une sainte, puis elle aurait passé à travers un procès en répondant toujours les bonnes réponses, et en agissant constamment avec, en accomplissant des miracles absolument étonnants, qui sont certifiés par tous les témoins. On dira que c'est fait il y a longtemps, au 15e siècle, et qu'on peut pas savoir. Allons, allons. Qu'une fille de 16 ans forme le projet de sauver la France, et qu'elle prétende entendre des voix et être envoyée de Dieu, qu'elle prédise sa victoire, qu'elle se fasse entendre du roi, parce qu'elle est entendue du roi. C'est incroyable. Comment a-t-elle pu passer à travers tous les obstacles? Quel enthousiasme l'armée? Comment faire pour enthousiasmer l'armée si c'est pas Dieu qui l'a aidée? Et qu'elle lève un siège en une semaine, mais qu'elle meurt sur le bûcher en criant « Mes voix étaient bien de par Dieu », et que tout cela soit mis en scène? Que j'en ai menti sur le chapitre des voix depuis le premier jour jusqu'au dernier, alors que sur tout le reste, elle a toujours dit la vérité et que ses prévisions se sont toujours réalisées. À mon avis, ce sont des hypothèses qui n'ont aucun sens, aucun sens. Il faut lire les textes. Et quant à supposer que Jeanne ait réellement entendu les voix, mais que celles-ci aient été des hallucinations auditives et visuelles, que se trahissaient des troubles mentaux, c'est-à-dire expliquer toute cette aventure miraculeuse en la mettant au compte d'une espèce d'état dégradé puis de demi-folle, alors que sa réussite, comme son sacrifice, là, quand elle meurt sur le bûcher, porte au contraire les marques, oui, des marques brillantes, d'une jeune femme qui a une humanité dépassée, transfigurée. Ce serait méconnaître les acquisitions les plus assurées de la psychopathologie. On pardonnera. Je suis presque en colère quand je pense à ça, mais il faut arriver à examiner l'attitude intérieure que Jeanne présentait à ses voix. Les premières frayeurs passées, elle les attend comme des amis et très vite elle les installe dans sa vie. Et en vérité, Jeanne trouve bien naturel de les entendre et d'écouter leurs conseils. Et ce qui la déconcerte, c'est la mission incroyable qu'elle lui ordonne d'entreprendre. Et au contraire, ce sont les voix que l'incrédulité publique ne parvient pas à admettre. Et c'est la mission qu'elle trouve toute naturelle, elle. Il y a là comme une espèce de renversement psychologique assez curieux. Jeanne se laisse persuader de sa mission par ses voix, alors que le reste des hommes ne finira par croire à celle-ci que parce que sans elle, sa mission serait invraisemblable. Et c'est mon cas. Sa mission serait invraisemblable si elle n'avait pas eu une mission claire au fond de son cœur. Que ce soit des voix qui aient eu vraiment un son, ou que ce soit des voix qu'elle ait ressenties au fond d'elle-même, et comme on en ressent parfois, c'est normal. Dieu nous parle. Mais Jeanne ne s'est pas laissée convaincre tout de suite, il faut bien le dire. Comme toutes les grandes œuvres, la sienne a été longuement mûrie, et pendant près de 3 ans, à partir de l'âge de 13 ans, elle va s'y préparer. Donc pendant 3 ans, de 13 ans à 16 ans, elle va porter dans son esprit la proposition de ses voix. Et cette proposition lui semble si extraordinaire, si lointaine, si étrangère, s'en trouve un instant désorientée. Mais elle est aussi sûre d'elle que de Dieu. Et elle est parvenue à son premier degré de perfection. Elle est la pucelle, la servante du Seigneur. Elle est à la mesure de son destin. Et elle partira pour accomplir son destin dans des circonstances absolument bouleversantes. Et nous verrons ça tout à l'heure. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle et aujourd'hui nous essayons d'approcher en moins d'une heure la vie de Jeanne d'Arc. Ça prendrait des heures et des heures, tellement c'est grandiose, c'est extraordinaire. Alors nous en étions à essayer de comprendre comment il se fait qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait. Et il faut dire qu'elle n'a pas cessé de prier pendant toute la chevauchée quand elle est partie pour accomplir ce qu'elle voulait faire et pour se faire recevoir. Alors, elle se rend à Vaucouleurs et après 2 refus, puis une longue indifférence, il y a le fameux Baudricourt qui se décide à lui donner une escorte pour l'accompagner à Chinon. Puis, pour aller plus rapidement, bien, on peut dire que il y a un défi au bon sens que présente cette arrivée à Chinon. Hein. Tout en elle est incroyable, incroyable qu'à 16 ans, elle réussisse là où les plus expérimentés échouent. C'est Marcel Clément qui écrit « Incroyable que jeune fille, elle aspire au métier de l'homme par excellence, la guerre. Incroyable que, ne sachant ni lire ni écrire, elle entende conseiller le roi et se faire écouter de lui. Incroyable enfin qu'elle se dise envoyée par Dieu et qu'elle ait reçu mission de ses voix. Et pourtant, il suffit qu'elle paraisse pour que les défiances les plus vives se calment, pour que les esprits les plus circonspects soient convaincus. Pour que la sympathie qui naît dans leur cœur et la confiance dans leur esprit les entraîne comme malgré eux dans l'immense espoir qu'ils sentent naître devant une jeune fille, je vous le rappelle, c'est absolument extraordinaire. Et alors, quelle est cette autorité qui l'anime? Qu'est-ce que c'est qui permet ce miracle? On pourrait dire que d'abord, c'est une foi intérieure si vive, une prière si totale, une obéissance si passionnée à ses voix que chacun des instants de sa vie leur est offert, leur est consacré. Puis un renversement assez singulier de son attitude, et Jeanne, qui est attentive aux ordres de ses saintes, leur emprunte leur conviction lorsque, à son tour, là, elle cherche à décider le roi, le futur roi, puis ses conseillers. Enfin, pour persuader ceux qu'elle affronte, elle utilise d'autres moyens, des moyens de sainte. Qu'est-ce que c'est ça, des moyens de sainte? Ben, elle reconnaît le roi lorsqu'il se dissimule parmi les courtisans, puis elle lui fait un signe, elle le reconnaît parmi les autres. Elle lui fait un signe mystérieux et qui marque sa mission d'un saut, qui marque que c'est indiscutable, c'est donc Dieu qui l'envoie. Vous savez, cette scène a été représentée au cinéma, on voit ça. Le dauphin se cache, mais elle va le trouver parmi tout le monde. Et c'est là un secret entre le roi et elle. Et elle lui dit, « J'ai 2 mandements de la part du roi du ciel. L'un est de lever le siège d'Orléans, qui est occupé par les Anglais. L'autre est de conduire le roi au sacre de Reims. C'est à Reims que les rois sont sacrés. » C'est là qu'on célèbre, un peu comme pour les rois d'Angleterre, on a vu ça déjà à l'abbaye de Westminster, ancienne abbaye bénédictine catholique, n'est-ce pas? Déjà, Elle a sa légende, cette Jeanne, et on parle d'elle. Elle a la confiance du peuple. Mais il y a des théologiens qui hésitent, puis un frère, le frère Séguin, c'est un nom bien québécois, qu'elle trouve un peu aigre. C'est ce qu'elle dit. Et puis, il s'attire des ripostes célèbres. Hein. Il lui dit, croyez-vous en Dieu? Elle dit, certes, et mieux que vous. Elle est un peu insolente. Hein. Alors, le frère Séguin la dit visage. Son regard est pur. Elle a dit selon sa pensée. Alors, consciencieusement, il poursuit. Quelle langue vous parle la voix? Et elle répond, tous ses points, hein, meilleure que la vôtre. Alors, on voit que Jeanne est une fille impatiente. Elle n'aime pas ses bavardages, elle trouve que c'est du temps perdu. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est chasser les Anglais et, comme elle dit, les foutre dehors de France. Alors, le frère Séguin lui dit, Jeanne, Dieu ne permet pas que nous ajoutions foi en toi. Ton fait n'est pas croyant. Nous ne pouvons conseiller au roi, sur ta simple parole, de te fournir des gendarmes, des soldats, quoi, qui vont être envoyés au danger, si tu ne nous dis pas autre chose. Or, Jeanne n'a que sa simple parole, elle répond, « En nom de Dieu, je ne suis point venue à Poitiers pour faire signe ou miracle. Mon signe sera de faire lever le siège d'Orléans. Mon signe sera de faire lever le siège d'Orléans. » Mais elle va le faire, je ne vous raconterai pas ça, vous pourrez le lire dans des livres. C'est absolument étonnant comment elle fait ça, c'est surprenant. Puis elle ajoute, « Là, je le montrerai, et pas avant. » Suivant l'ordre de Dieu, donnez-moi les hommes d'armes en tel nombre que vous voudrez, et j'irai et vous verrez. Elle a 17 ans. Ou à peine 18. Elle s'entête. Elle obtient tout. Le dauphin Charles, l'héritier du trône, petit-fils de Saint-Louis, il fait mander à toutes les villes de France que Jeanne de Domrémy, telle une autre Sainte-Catherine, lui était envoyé par Dieu pour recouvrir justement et saintement son royaume. Obéissant son conseil, Jeanne se rend à Tours, où là on lui fournit une armure éclatante de blancheur. Ça lui est fait sur mesure et son énergie contraste bien avec sa jeunesse. Et le fait qu'elle soit une femme semble plus naturel sous cette protection-là. Elle est bien protégée avec son armure. Mais des habits d'hommes, les fameux habits d'hommes qu'on va lui reprocher, ça va lui créer bien des problèmes, des ennuis à Rouen lors de son procès, là, quand elle sera arrêtée par les Anglais. Mais pour l'instant, ces habits-là vont lui permettre à Jeanne de monter à cheval, évidemment, et d'imposer par cette tenue respect aux soldats, aux hommes dont elle s'apprête à partager la vie. Et Jeanne a réussi à se faire écouter. On va lui donner une armée, mais avant de commencer la guerre, elle offre la paix, et dans quel terme? Elle dit aux Godons, c'est-à-dire les Anglais, elle les appelle les Godons, G-O-D-O-N. Même c'est un nom de famille ici, Godon, je crois. Je ne savais pas ça que ça voulait dire anglais, n'est-ce pas, comme ce nom de famille, l'anglais aussi. Rendez au roi de France. Elle écrit ça aux Godons sur une espèce de texte qu'elle met sur une flèche pour l'expédier chez les Anglais. Rendez au roi de France et à la pucelle qui est ici envoyée de par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les bonnes villes que vous avez prises et violées en France. Elle est ici venue de par Dieu pour réclamer le sang royal. Elle est toute prête de faire paix si vous voulez faire raison. Comme vous voyez, elle dictait très bien. Alors elle est maîtresse de ses décisions. Elle ne perd pas une journée. Le 27 avril, à l'aube, l'armée part de Blois et Jeanne éprouve une double joie, celle de constater que les premiers obstacles ont été surmontés. Et c'est ainsi que, petit à petit, elle réussit à chasser les Anglais et à remporter victoire sur victoire. Hein. Et ce n'est pas qu'elle aime le combat, elle le redoute. D'ailleurs, la vue du sang l'a fait pleurer. Elle déclare un jour qu'elle n'a jamais vu couler le sang d'un Français, que ses cheveux ne se soient dressés sur sa tête. Mais elle a la volonté d'obéir à Dieu. Et sa nature lui en donne toutes les possibilités, et elle connaît les raisons du combat, hein, cela excite son courage. On possède d'ailleurs les témoignages de plusieurs personnes, Perceval de Boulainvilliers, du sénéchal du Berry, qui confie ses impressions à Philippe-Marie Visconti, duc de Milan. Comme vous voyez, ce sont des gens, à mon sens, dignes de foi. Il y en a un qui dit, cette pucelle est d'une élégance, pucelle ça veut dire une vierge, cette pucelle est d'une élégance convenable. Elle a l'attitude d'un homme, elle parle peu et montre dans ses dires et faits une merveilleuse prudence. Elle a la voix gracieuse d'une femme, elle mange peu, elle prend peu de vin. Elle dit que les Anglais n'ont aucun droit en France, qu'elle a été envoyée par Dieu pour les expulser et les vaincre. Voici des témoignages de l'époque. C'est sûr qu'il n'y a rien de grand qui se fait sans peine. C'est bon. Et la réussite de Jeanne est une réussite extraordinaire qui met un terme finalement à l'invasion anglaise. Et tout ça, ça ne s'est pas produit sans que Jeanne en ait compris les raisons. Et que de toute sa foi, de toute sa volonté, elle l'ait non seulement aidé, mais voulu. Il est à jamais impossible de discerner la part du divin et la part d'humanité qui se rencontre dans cette fille, dans cette Jeanne. Dans quelle mesure est-ce que ses voix lui dictaient le détail de ses décisions et dans quelle mesure est-ce qu'elle lui inspirait son incroyable énergie? Voilà. Bah. Mais tout ça est secondaire. En une semaine, elle délivre Orléans. Et depuis 9 mois, la ville était investie. 9 mois! Une à une, là, les bastilles, là, les petits forts ou les structures anglaises pour rester là, pour que les Anglais restent là, sont tombées. Et dès lors, Jeanne songe au sacre du roi. Mais auparavant, il faut occuper, en amont et en aval d'Orléans, les villes que les Anglais tiennent encore. Il le faut pour assurer la sécurité d'un voyage à Reims, hein, où doit avoir lieu le couronnement. Et aussi, Jeanne va encore se jeter parmi les Godons, là, les Anglais. Et la pucelle, comme ils l'appellent, veut leur montrer que la putain, parce que eux, les Anglais l'appelaient la putain, et ils se gênaient pas, ils se criaient des injures, de chaque côté de la rivière, et lui, la traitait de putain, de ribaude, c'est-à-dire de débauché, de vachère aussi. Alors, ça l'insulte, ça la fâche, hein. Et puis, les compagnons de Jeanne exultent parce qu'ils sentent qu'elle a du caractère et qu'elle va les mener plus loin. Ils avaient confiance en elle, mais maintenant, la preuve est faite. Hein. Et c'est Gerson, le fameux chancelier de l'Université de Paris, un des plus grands mystiques de son temps, le fameux Jean Gerson, le grand Gerson, qui chante les louanges de Jeanne. C'est la France tout entière qui déjà la considère comme une sainte. Et même les mères s'approchent d'elle et la supplient de toucher leurs enfants. On pleure lorsqu'elle passe à travers la foule dans les rues d'Orléans. Elle est belle sur son cheval avec son armure. Ah, une émotion indescriptible l'entoure. Jeanne, les yeux au ciel, remercie Dieu. Mais quel est l'homme qui, devant un pareil succès, là, au sommet d'une telle gloire, où nous sommes tous tellement orgueilleux, hein, qui n'aurait pas été enivré? Quel homme, même assez parfait, là, tout maître de lui-même, quel homme que l'ambition n'aurait pas fait tomber au fond? Où est l'homme lucide qui aurait l'esprit de Jeanne? Car l'esprit de Jeanne, lui, il est lucide. Jeanne a un cœur parfaitement pur. Et c'est pas là le moins admirable chez Jeanne. On est un peu gêné lorsqu'on parle d'elle, car à tout moment, les sentiments qu'on éprouve sont marqués d'une continuelle perfection. Elle est parfaite. Elle est merveilleuse. On prend facilement l'habitude de la perfection des autres, hein. Mon Dieu. On raconte la vie de saint, puis on dit, ils sont parfaits, ils sont parfaits, ils sont parfaits. Mais non. Ils ont beaucoup de problèmes. Et Jeanne, on dirait qu'elle n'en a que cette espèce de colère à certains moments, mais qui vient de sa fierté de chrétienne et de française. Il semble qu'à chaque étape nouvelle, Jeanne se dépasse elle-même. La lucidité de ses vues, moi, m'étonne. Plus je l'étudie, plus cela m'étonne. Elle a un courage enflammé, un enthousiasme merveilleux. Comment nommer le sentiment que l'on éprouve lorsque l'on assiste au spectacle de cette jeune fille qui n'a pas encore 18 ans et qui conserve une tête froide au milieu de ses déchaînements d'enthousiasme qui l'entoure? Elle est pieuse et elle remet tout à Dieu. Jeanne prie. Elle prie du fond de son cœur à 17 ans. Elle est mêlée à des événements qui sont presque uniques dans l'histoire du monde. On trouve ça dans l'Ancien Testament. On trouve ça ici. Là, il y a un saint roi portugais qui a déjà chassé les Espagnols du Portugal, mais qui était très bon. C'était un guerrier honnête et bon, qui guerroyait pour son peuple. Oh, j'entends des gens qui me disent « la guerre ne peut être sainte, la guerre ne peut être bonne, mais il y a des moments où il faut défendre les pauvres, et les défendre de façon, parfois, un peu violente. Mais jamais, vous savez, n'a pris les armes, n'avec un étendard. Elle menait les Français au combat, mais elle n'a jamais tué qui que ce soit. Et au moment où le succès la sollicite, où ni l'occasion lui sont données de se dissiper, au fond, elle se recueille. Elle se trouve dans l'intimité de sa conscience et de sa foi. Et sous ses yeux, ben, les soldats, qui sont ivres de leur victoire, ne pensent qu'à continuer à poursuivre les Anglais. Ils veulent les fouter dehors, jusque en dehors du sol de la France. Alors, après la délivrance d'Orléans, ils s'indignent à l'idée de prendre la route. Que demande Jeanne? Jeanne ne veut pas aller jusqu'au bout. Elle ne veut pas les tuer, les Anglais. Elle veut les convaincre de s'en aller. Chez eux. Sur leur île. Alors, ce qu'il leur fallait, eux, ces soldats-là, c'était la conquête de la Normandie, la course jusqu'à la mer pour précipiter les Anglais dans la mer. Oh, sur le plan militaire, leur plan purement humain, c'était pas absurde. Hein? Parce que la victoire de la Normandie, qui est à l'est de la France en haut, là, ça aurait arraché à l'ennemi son principal territoire conquis sur la France. Ça l'a récupé, coupé de toutes ses communications. Mais Jeanne a hésité, elle dit non, elle trouve que assez c'est assez. Elle n'est pas une guerrière, elle veut le couronnement du roi, elle veut l'honneur des Français, la liberté des Français, et que les Français, finalement, soient eux-mêmes chez eux. Alors on fait souvent remonter à Jeanne d'Arc la première idée de la nation française. C'est un jugement traditionnel. C'est assez véridique dans un sens. Mais ce dont Jeanne témoigne par toute sa conduite, c'est d'un patriotisme qui est pensé et qui n'est pas sentimental. Du patriotisme sentimental mène souvent à la dérive, mène souvent à un regard, sinon haineux, du moins méprisant à l'égard des autres, de ceux qui sont différents de nous et que l'on considère comme des étrangers. C'est très mauvais. Le patriotisme, au contraire, doit nous entraîner, par la raison, à développer un sentiment d'affection, de tendresse à l'égard de tout étranger. Et je dirais ici au Québec à l'égard des anglophones et des Anglais, pour essayer de convaincre leur cœur que le Québec est une terre francophone. Et on peut suivre à l'exemple de Jeanne, dans son esprit, un idéal d'un patriotisme intelligent, et non pas aveugle. Ce qu'elle illustre, c'est une notion pratique, de science politique, c'est l'idée, en somme, de l'unité de la France. Et la France était partagée, était soumise pour moitié, n'est-ce pas, pour moitié à l'influence anglaise. On n'était pas sûr qui était le chef. Or, c'était le petit-fils de Saint-Louis qui était le vrai chef. Le message de Jeanne, c'est la désignation du chef. Il n'y aura de victoire et de vraie victoire possible que si elle est la victoire d'un peuple uni autour de son chef. C'était la conception de cette époque. Aujourd'hui, on n'est plus comme ça. Mais c'était la mentalité de ce temps, il y a 500 ans. Il fallait la victoire d'un roi, non d'un parti, et certainement pas d'une secte. N'oublions pas que les Anglais, à cette époque, étaient catholiques aussi. Ils n'étaient pas séparés de l'Église catholique. Ça ne viendra qu'un siècle plus tard. Les militaires, eux, ne comprennent pas toujours le point de vue de Jeanne d'Arc. Et les voix de Jeanne le savent, et Jeanne, l'ayant compris, combattra jusqu'à la limite de ses forces pour obtenir de la part de ses soldats du calme. Alors, il y a l'apothéose à Reims, qui marque le terme de la mission de Jeanne, et désormais, l'échec se mêlera au succès. Jeanne ne reçoit plus d'ordre de ses voies et devant Paris, elle a échoué. À Paris, les Anglais possèdent Paris, mais elle ne réussit pas à les chasser. Mais elle prédit leur départ et 5 ans plus tard, en effet, ils quitteront Paris et remettront Paris aux Français. À Saint-Pierre-les-Moutiers, sa seule ténacité assure la prise de la ville près de Paris. pour plus tard, la prise de Paris pour plus tard. Et d'ailleurs, tout cela n'a pas tellement d'importance. Et dès maintenant, bien la cause que Jeanne doit défendre, ce n'est plus une cause temporelle. Alors pour Charles, le dauphin, le futur roi, et pour la France, elle a fait assez. L'unité se fait autour du roi. Et l'armée royale a retrouvé le chemin de la victoire, et le royaume que Jeanne va défendre désormais n'est plus sur la terre. Non, un autre royaume. Pendant près d'un an, de juillet 1429 à mai 1430, elle a beau s'empresser partout où l'on combat, son âme est triste. Souvent, elle songe à regagner son village de Don Rémy. Elle est un peu désorientée, et à nouveau, elle ne distingue plus très bien son avenir, mais elle ne doit plus revoir Don Rémy, où elle est née. Et le 23 mai, Jeanne, emportée par sa vaillance, reste presque seule à combattre dans la plaine près de Compiègne, et les bourguignons, qui sont les alliés des Anglais, se précipitent sur elle, elle est prise, et pour la troisième fois, une voie nouvelle s'offre à elle. Et là, c'est le tragique. Tragique. Elle dit, j'aimerais mieux rendre mon âme à Dieu que d'être entre les mains des Anglais. Alors cette pauvre paysanne, qui ne sait ni A ni B, n'en connaît pas moins ses ennemis. Alors, moyennant 10 000 francs, les Anglais, occupent là-bas et qui obtiennent des bourguignons, que leur soit livrée celle qu'ils appellent la sorcière, alors qu'elle ne l'est pas du tout, cette sorcière qu'ils redoutent tellement. J'entendais une émission hier à la télévision américaine où on insultait l'Église catholique, prétendant que c'est l'Église catholique qui l'a traitée de sorcière et qui l'a brûlée comme sorcière. Ce sont les Anglais. Alors confié à Mgr Pierre Cochon, qui était un allié des Anglais et soumis aux Anglais, cet évêque de Lisieux d'ailleurs, a été livré pour être jugé. Jean ne comprendra jamais tout à fait que le tribunal ecclésiastique, puisque c'était le tribunal de cet évêque Cochon, devant lequel elle répond, ce n'est que l'instrument de la vengeance anglaise. Elle a de la misère à comprendre ça. Bien oui, ça arrive que l'Église est prise comme dans un étau par la politique. Et c'est les Anglais qui décident de son supplice. Et incertaine entre le respect qu'elle doit à la Sainte Église puis la conviction où elle est de n'avoir jamais failli à sa conscience, mais elle maintient son attitude passée. Sans démentir son respect pour les clercs qui l'interrogent, elle ne manque pas de respect. Alors du procès qu'il faut absolument lire, peu de lectures au monde, je vous l'ai dit, sont plus attachantes. C'est extraordinaire et Jeanne y compte à travers les interruptions puis la mauvaise foi toute l'histoire de son âme. Pendant des mois, elle surmonte la fatigue de ses interrogatoires incessants qui continuent sans cesse, espérant toujours que la justice de l'Église la sauve. De ce qui lui est confié par Dieu, elle refuse obstinément de rien dire. Elle ne veut pas révéler ses secrets. Elle retrouve toute sa assurance la plus courageuse pour ordonner « Passez outre, passez outre ». Elle en a marre de ce procès. Et sur le procès, mais l'opinion de Jeanne est nette. Elle dit que ce procès est inutile. Elle dit, je dirai volontiers. Imaginez une jeune fille de 18 ans. Je dirai volontiers ce que je sais. Mais encore pas tout. Je suis venue de par Dieu. Et n'ai que faire ici. Et demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venue. Mais les juges ne l'entendent pas ainsi. Ils représentent Dieu sur la terre, croit-il. Et le procès devient facile. Alors dès les premiers interrogatoires, ils vont feindre que l'obéissance que Jeanne témoigne à Dieu, c'est un moyen détourné de méconnaître l'autorité de l'Église. Alors ils lui disent, la voix vient-elle de Dieu? Elle dit, je crois fermement, aussi fermement que je crois en la foi chrétienne, et que Dieu nous racheta des peines de l'enfer, que cette voix vient de Dieu et par son ordre. Alors il y a le père Jean Beaupère qui l'interroge, comprend qu'il a affaire à une fille solide. Puis on va voir, les clercs vont pencher vers elle de plus en plus pour la comprendre, la considérer comme une sainte. Mais malheureusement, le jugement sera rendu. Alors Jean Beaupère, en mêlant dans sa réponse la foi chrétienne et l'authenticité de sa mission, là, il se rend compte que Jeanne d'Arc empêche qu'on oppose la mission puis la foi chrétienne. Alors il décide de faire autre chose. Il dit, la voix vous a-t-elle dit, en votre jeunesse, de haïr les Bourguignons et les Anglais? Si Jeanne fait un aveu de haine, elle est sous l'influence du démon. Si elle s'en défend, elle dément son passé. Elle esquive avec aisance. Elle dit, Depuis que je compris que les voix étaient pour le roi de France, je n'ai point aimé les Bourguignons, alliés des Anglais. Les Bourguignons auront la guerre s'ils ne font ce qu'ils doivent, et je le sais par la voix. Alors, petit à petit, elle dit des choses magnifiques. Elle dit « J'avais grande volonté et grand désir que le roi eût son royaume. » Parfois, elle prophétise. Elle dit « Que pensez-vous qui doivent arriver à ceux de votre parti ? Avant qu'ils soient 7 ans, les Anglais perdront plus grand gage qu'ils ne firent devant Orléans, c'est-à-dire qu'ils vont perdre Paris, comme je vous ai dit tout à l'heure. » Elle le prédit. Le 17 avril 1436, en effet, le dernier Anglais quitte Paris, n'est-ce pas ? C'est 4 ans à peu près, 5 ans après sa mort. Et lorsque le piège est trop grossier, ben elle montre beaucoup de bon sens. On lui dit, Saint-Michel était-il nu ? Et elle répond, pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir ? Et ça continue comme ça, le procès est absolument phénoménal. Elle dit, tout ce que j'ai fait est par le commandement du Seigneur. Puis le procès se poursuit, puis enfin, jeudi 24 mai 1431, Jeanne est conduite sur un échafaud. Et là, bien, la menace se précise, et puis elle finit par signer à la peur. Elle dit, j'aime mieux signer que d'être brûlée. C'est une défaite qui nous montre bien qu'elle est une femme, un être humain. Et elle a peur de porter des vêtements de femme et d'être violée. Mais finalement, elle accepte de mourir par obéissance. Et le 30 mai 1431, Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché. Intérieurement, elle prie d'une prière un peu nerveuse. Elle est liée au poteau. Le cœur de Jeanne bat, se rompre, et elle crie « Jésus, Jésus, Jésus !» « Oh Jésus, Jésus !» Et un dernier effort, un ultime message à l'heure où on ne ment pas, elle crie « Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. » Et à nouveau, elle crie « Jésus !» Et elle meurt. Et elle meurt comme une sainte.